Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il est un mélange de Jules Verne et de Jean de La Fontaine du XXIe siècle, dont les romans d'anticipation, nés de l'observation des sociétés animales, se vendent par millions tout autour de la planète. Ainsi, Bernard Werber est une star en Russie et en Corée du Sud, où les beaux esprits ne tiennent pas à distance la littérature qui se pique de science-fiction, comme c'est le cas en France. Bernard Werber fait paraître chez Albin Michel deux livres absolument réjouissants. Un roman, Sa Majesté des Chats, ou Comment les chats sont devenus maîtres du monde, et une encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, écrite par un chat.
Europe 1.
Voilà, bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Alors, cher Bernard, Jean de La Fontaine aurait donc un descendant qui, comme lui, mais au XXIe siècle, se sert d'anthropomorphisme pour piquer de curiosité et éveiller la conscience des humains, c'est ça? Et c'est vous?
C'est un grand honneur que vous me faites. Je crois que le fait de parler de notre société en utilisant les animaux, c'est une manière de faire un petit pas de côté pour faire passer les idées autrement. Sinon, on tourne un peu en rond, c'est toujours les mêmes idées qui circulent. Et là, les animaux sont un excellent moyen pour sortir de nouvelles idées.
Alors, bon, certes, La Fontaine, on sait qu'il assénait des vérités en faisant parler des animaux pour d'abord ne pas s'attirer le courroux, voilà, des puissants à la cour. D'ailleurs, son protecteur, Fouquet, avait été embastillé. Mais il n'empêche que, regardez, tourner le monde des humains, j'ai presque envie de dire en l'observant de l'extérieur, comme d'ailleurs le font les animaux qui nous observent, ça permet vraiment de mettre en lumière des choses tout à fait inattendues.
Notre comportement est bizarre. Et de toute façon, la série que j'ai faite sur les chats démarre avec un chat qui, depuis son balcon, assiste à un attentat terroriste et essaie de comprendre pourquoi des humains vont tuer d'autres humains. Donc c'était une manière de parler du sujet le plus délicat et sur lequel il y a l'émotion la plus forte, autrement. Que peut penser un chat d'un homme qui rentre dans une école pour tuer des enfants? À partir de là, la déduction de ma chatte, qui s'appelle Bastet, c'est les humains sont arrivés à un point où ils sont en autodestruction, et maintenant il faut penser à les remplacer, et donc penser à une nouvelle civilisation de chats qui remplace cette humanité qui se détruit elle-même.
Voilà, et là on est déjà au cœur du nouveau roman. Alors Bernard Werber, à l'anthropomorphisme, qui est le fait d'attribuer donc des comportements humains aux animaux, se rajoute, dans vos récits, votre capacité à vous projeter en fait dans le temps, parce que vous n'êtes pas un auteur de science-fiction, mais d'anticipation.
Oui.
En fait, je peux dire que les extraterrestres vous ennuient, parce que vous trouvez que sur Terre, il y a beaucoup de populations fascinantes, encore méconnues, c'est ça?
Il y a des formes de vie et d'intelligence parallèles, comme les fourmis, mais aussi, par exemple, on trouve ça chez les végétaux, il y a une intelligence chez les arbres, il y a aussi une intelligence chez les chats, mais il y a une intelligence aussi chez les chiens, et chez les porcs, et chez les oiseaux.
Bon, pourquoi ce genre que vous appelez le merveilleux scientifique, puisque le romancier imagine à partir de données scientifiques, pourquoi ce genre est-il si décrié en France?
Parce qu'on vit dans la nostalgie du passé et dans la fascination du présent et qu'on a oublié de regarder le futur. Mais des gens, en effet, comme vous citiez Jules Verne, on pourrait citer aussi Barjavel et Pierre Boulle, ont regardé
Pierre
le futur.
Pierre Boulle, l'auteur de La planète des singes.
La planète des singes, voilà. Exactement. Mais ce sont des gens qui ont parlé du futur, mais qui, de manière étonnante, n'ont pas marqué la littérature, si ce n'est que les jeunes le lisent et que ça donne des films. Donc ça montre bien que c'est les histoires les plus puissantes, mais ce ne font pas partie de la littérature dite classique. Et en France, on se targue de n'aimer que le style et pas les idées. Donc je suis dans cette tradition de Jules Verne.
On privilégie le style au détriment de l'imaginaire, tout simplement.
Oui, et si on se prive d'imaginaire, on va perdre le futur, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons une littérature qui regarde le futur que nous pourrons sortir des idées, des machines et rester en avance. C'est parce que Jules Verne a prévu de la Terre à la Lune qu'un jour une fusée a pu exister. C'est-à-dire que la science-fiction est indispensable. Ce n'est pas juste un amusement de l'esprit, de l'imagination, c'est une manière de prévoir le futur et d'annoncer des solutions et d'annoncer aussi des problèmes. Donc nous avons besoin de cette littérature.
Alors, vous évoquiez à l'instant justement Pierre Boulle, qui est l'auteur de La planète des singes. Il n'est pas du tout américain, même si Hollywood a fait 7 adaptations cinématographiques de son roman. Est-ce qu'il fait partie de ces romanciers qui vous ont fait comprendre qu'il y avait tant à dire sur ces sociétés parallèles qui peut-être nous observent, comme par exemple celle des animaux, dès, je ne sais pas, l'enfance, l'adolescence, en fait, dans quel genre de lecture vous êtes-vous plongé pour ouvrir ces portes-là?
Alors, en effet, quand j'ai découvert La planète des singes de Pierre Boulle, ça m'a vraiment marqué parce que justement, il est en train de nous avertir que cette pulsion autodestructrice de l'humanité peut arriver jusqu'à son apothéose. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, il est en train de faire du bien à l'humanité. Et bien plus tard, petite anecdote, quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, j'ai voulu faire la nécrologie de Pierre Boulle parce qu'il était mort et le chef de la rubrique littéraire du Nouvel Obs n'avait jamais entendu parler de Pierre Boulle. Et quand j'ai parlé de La planète des singes, il m'a dit, j'étais persuadé, en effet, comme vous l'avez dit, que c'était
un scénario hollywoodien.
Hollywoodien, voilà. Donc on oublie qu'en France, on a des très bons prospectivistes, on a des très bons auteurs de science-fiction. C'est juste que c'est tout le genre qui est considéré comme un genre mineur et c'est dommage. Mais quelque part, c'est peut-être ma chance parce que du coup, je suis très visible vu qu'on n'est pas nombreux. Et du coup, j'occupe le terrain. Mais j'aimerais bien ouvrir la porte pour qu'il y ait d'autres auteurs, qu'il y ait toute une génération d'auteurs qui parlent du futur et qui proposent d'autres idées, des auteurs d'imagination.
Alors, Bernard Werber, au cœur de votre imaginaire, il y a donc eu les fourmis, puis les dieux, puis les micro-humains, et depuis 2016, il y a les chats. Avec malice, d'ailleurs, vous prévenez que lorsqu'on choisit un chat, il ne vaut mieux pas le faire pour être aimé, car sinon, il vaudrait mieux prendre un chien, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que l'amour du chien est inconditionnel. Dès que le chien voit qu'il nourrit, il se met à l'aimer. Par contre, le chat, il va vous tester pour vérifier si vous êtes digne de son amour. Et tous les chats n'aiment pas forcément leur maître. Je pense que parmi nos auditeurs, certains doivent se dire « Ah ben ça, on a pu le vérifier ». Mais il y a des chats gentils, il y a des chats plus indifférents. Ils ne sont pas méchants, ils sont dans le style « Bon, je suis coincé là et c'est toi qui me nourris, alors je reste là. Mais j'aurai à choisir, peut-être que je ne t'aurais pas choisi comme maître ». C'est-à-dire que l'amour du chat se mérite, alors que l'amour du chien est un peu automatique. Moi, j'ai eu un chien aussi, je dois reconnaître que se faire aimer par un chien, c'est une expérience forte. Maintenant, essayer de comprendre un chat, c'est une expérience qui me semble encore plus éprouvante, encore plus extraordinaire. C'est pour ça que j'ai fait un livre sur les chats dans un premier temps.
Alors, justement, votre nouveau roman, Sa Majesté des Chats, démarre donc dans un Paris envahi par les rats, où résiste encore une petite communauté formée d'humains et de chats. L'héroïne, une chatte nommée Bastet, comme la déesse de la beauté à tête de chat dans l'Égypte ancienne, va tenter de monter une alliance interespèces, un front commun assez puissant pour anéantir les rats. Vous imaginez l'intrigue dans un futur proche, mais actuellement à Paris et sa banlieue, en fait, il y a 15 millions d'habitants pour 30 millions de rats qui sont des animaux hyper intelligents dotés d'une mémoire prodigieuse. La guerre de Sa Majesté des Chats pourrait bien avoir lieu.
Ben, il suffit de se promener. Il y avait le parc Monceau, je crois, qui avait été envahi de rats. Il y avait des rats qui avaient attaqué des enfants dans un bac à sable. Ça se passe de nos jours. Ce n'est pas de la science-fiction. Évidemment que les rats forment une forme d'intelligence et parallèle dans notre monde. Et que si jamais la civilisation humaine partait en destruction, les rats en profiteraient. Mais on le voit à toutes les guerres. À toutes les guerres, dès le moment où le système administratif et le système de nettoyage des ordures ne fonctionnent plus, on voit les rats qui sortent des égouts et qui sortent du métro et qui commencent à attaquer les êtres humains. Donc c'est une vraie menace. Et dans cette guerre, les humains ont pour alliés les chats. Vous savez, les quelques villes qui sont avec des bandes de chats libres sont sans rats. On en voit en Grèce, on en voit en Égypte, on en voit en Israël, des villes où on voit des bandes de chats qui circulent, c'est eux qui font la police contre les rats. Donc c'est un choix, soit il y a des villes à rats, soit il y a des villes à chats.
On fait une pause et on retrouve tout de suite Bernard Werber.
Europe 1. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et cet après-midi, c'est Bernard Werber qui se raconte sur Europe 1.
Par les temps qui courent, eh bien, plonger dans les romans de Bernard Werber relève vraiment de la thérapie. Alors, cher Bernard, deux livres envahissent en ce moment, en même temps, les librairies. Votre roman « Sa Majesté des Chats » et puis une encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats malicieusement rédigée par un chat lui-même. Voilà, les deux publiés chez Albin Michel. Ce qui est surprenant et passionnant d'ailleurs dans votre roman, dont on ne dévoilera pas la progression de l'intrigue, parce qu'il faut vraiment plonger dans sa lecture, c'est que parallèlement au récit romanesque, eh bien, ce livre est truffé de chapitres qui nous racontent l'épopée réelle des chats à travers les millénaires et à travers le monde depuis leur premier contact avec l'homme, il y a 10 000 ans. Mais pas seulement. Dans ces chapitres, en caractère gras, vous traitez de philosophie, de science, de sexualité, d'histoire. En fait, dans ce livre, vous ouvrez plein de fenêtres.
Oui, c'est ce qui m'amuse, c'est d'instruire le lecteur. Je crois qu'un bon livre est un livre qui va permettre au lecteur j'allais presque dire, d'animer les soirées, les dîners en famille. C'est-à-dire, il va connaître des petites anecdotes amusantes et surprenantes. Et donc, j'ai regroupé ça sous cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, si ce n'est que là, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, puisque je ne parle que d'anecdotes sur le monde des chats.
Bon, alors, si on veut être absolument incollable sur les chats, Bernard Werber, on plonge d'abord dans l'encyclopédie donc, du savoir relatif et absolu des chats, qui nous compte en fait leur histoire depuis l'Égypte ancienne, où 2500 ans avant Jésus-Christ, on vénérait la déesse à tête de chat Bastet. Les chats égyptiens à cette époque étaient sacrés au point qu'un être humain était égorgé s'il tuait un chat. Et les femmes se maquillaient, se scarifiaient les joues pour se dessiner des têtes de chats. Apprend-on dans cette encyclopédie ?
Oui, c'est à la plus grande fête de l'Antiquité, telle que le raconte Hérodote. Ça se passait il y a 3500 ans dans la ville de Bubastis, Bast comme Bastet. Et c'était un endroit où se réunissaient 700 000 personnes à peu près pour danser, chanter, honorer les chats, enterrer les chats morts, payer des rançons pour...
700 000 personnes avant Jésus-Christ, alors que les armées n'étaient pas si nombreuses que ça, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui dans les films hollywoodiens.
Les
mais c'est hallucinant, 700 000 personnes.
Voilà, les gens venaient de partout pour fêter les chats. Et c'était en même temps une sexualité complètement relâchée. Et puis, comme vous racontiez, les gens se faisaient des blessures, enfin les femmes se faisaient des blessures dans lesquelles elles versaient du sang de chat pour devenir un peu plus chatte elles-mêmes. Et cette fête semble la plus grande fête, en tout cas, de ce millénaire. Et il y avait... C'est un peu le Woodstock de l'Antiquité. Voilà.
Alors, c'est à cause de leur adoration pour les chats que les Égyptiens donc, perdirent la guerre 6 siècles avant Jésus-Christ contre le redoutable roi des Perses, n'est-ce pas ?
Oui, il s'appelait Cambyse II en 550 avant Jésus-Christ. Péluse était la ville qui retenait les Perses. Et tout d'un coup, ils apprennent que les Égyptiens vénéraient les chats. Donc, ils vont attacher sur les boucliers de leurs soldats des chats vivants. Et les Égyptiens, ne voulant pas lancer leurs flèches sur les soldats perses, vont se laisser tuer. Et c'est toute la civilisation...
Pour ne pas blesser les chats.
Mais c'est toute la civilisation égyptienne qui va s'effondrer. Et les Perses, en entrant en Égypte, vont détruire les temples dédiés aux chats. Et ils vont aussi tuer beaucoup de chats. Donc au final, pour sauver la vie de quelques chats, ils vont causer la mort de beaucoup de chats. Et c'est la fin de la civilisation des chats.
Et de beaucoup d'humains aussi.
Et de beaucoup d'humains, accessoirement. Mais c'est la fin, en tout cas, du règne des chats, de la vénération des chats en Égypte, en moins 550 avant Jésus-Christ.
Alors, après l'Égypte, c'est grâce aux Hébreux, commerçants voyageurs, que les chats ont conquis l'Inde, puis la Chine, c'est ça ?
Oui, ils vont être transportés par les commerçants et notamment dans tous les bateaux des Hébreux qui circulaient, des Phéniciens qui circulaient dans le bassin méditerranéen. Ils mettaient des chats parce que les chats protégeaient les réserves de nourriture contre les souris et contre les rats qui les mangeaient. C'est toujours cette idée, là où il y a un chat, il y a une sécurité. Les chats d'ailleurs protégeaient aussi les maisons des scorpions, des serpents et des araignées. Donc une maison avec un chat était une maison sécure.
Et puis ensuite, les chats conquirent le monde grâce aux militaires. Alors d'abord avec les armées grecques, puis avec les légions romaines qui amenèrent les chats chez nos ancêtres les Gaulois.
Exactement. Il semble que les soldats romains avaient besoin d'un peu de présence douce et tendre en dehors de leur grand moment.
Les Romains avaient besoin de ronron thérapie, c'est voilà, ce que vous allez
exactement.
Nous dire.
Et c'est d'autant plus étonnant que Jules César était ailourophobe, à savoir qu'il avait l'allergie des chats.
Oui.
Napoléon et Jules César sont les deux chefs d'État qui ne supportaient pas la présence des chats, mais leurs troupes avaient des chats. Et c'est vrai que j'étais très étonné de voir qu'il y avait des masses de chats qui circulaient avec les armées. D'ailleurs, on retrouve ça aussi durant la guerre de Cent Ans, les soldats anglais avaient des chats pour les protéger, les cordes de leurs arcs des souris.
Incroyable. Mais alors, ce qui est absolument effroyable dans l'épopée des chats tentant de séduire le monde des humains, c'est que pendant 4 siècles, 2350 jusqu'au milieu du 18e, c'est-à-dire de la première grande épidémie de peste noire qui décima la moitié de l'Europe, soit 25 millions de personnes, jusqu'au règne de Louis XV, eh bien, on considéra les chats comme des créatures maléfiques, alliées au diable, les symboles de sorcellerie et d'hérésie. Par exemple, la nuit de la Saint-Jean, on organisait des fêtes avec de gigantesques bûchers dans lesquels on jetait les chats pour les brûler vifs.
Oui, en fait, ça a démarré en 300 après Jésus-Christ, au moment où l'empereur romain a dit qu'il interdisait aux chrétiens de posséder des chats, puisque cet animal était censé être un animal maléfique, tout simplement parce qu'il vivait la nuit. Et parce qu'il avait une sexualité torride et qu'il ne se laissait pas apprivoiser. Voilà, à partir de là, on a associé le chat à la sorcellerie, à tout ce qui est maléfique, et puis est arrivée cette superstition du chat noir et de toutes ces notions...
Qui perdure encore, hein.
Oui. Et toutes ces notions de le chat porte malheur. Et il a fallu attendre, comme vous l'avez signalé,
Louis XV,
qui lui aimait les chats et qui a décidé d'arrêter la fête de la Saint-Jean. Et
puis après, enfin, Richelieu aussi adorait les chats, il paraît qu'il en avait une vingtaine, mais il n'a pas réussi à arrêter cette fête monstrueuse.
C'était une superstition dans les campagnes. Après, vous savez, une fois qu'on lance ça, on ne peut pas mettre de la police pour empêcher les gens d'aller massacrer les chats. Mais quand il y a eu la deuxième peste en 1600, donc il y a eu une peste en 1300, une peste en 1600, tous les quartiers où il n'y avait pas de chats ont été contaminés et les quartiers où il y avait des chats ont été protégés. Donc le chat a vraiment protégé les humains qui les protégeaient eux-mêmes.
Europe 1.
Ça fait donc très longtemps qu'il nous observe, qu'on vit en parallèle. Voilà, on apprend des choses absolument passionnantes. On retrouve tout de suite mon invité, Bernard Werber, qui fait paraître deux livres sur les chats chez Albin Michel. À tout de suite.
Il est 15h22 et vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec son invité. Aujourd'hui, un amoureux des chats.
C'est en compagnie de Bernard Werber qu'on se promène cet après-midi et cette balade va vous réserver des surprises. Alors, cher Bernard, vos parents tenaient un commerce de vêtements pour dames rue de la Pomme. Ce pourrait être la première phrase d'une nouvelle. Franchement.
À Toulouse, oui. Non, je suis né dans une famille, en tout cas, de raconteurs d'histoires. Mon père me racontait beaucoup d'histoires.
Ah oui ?
Et il m'a donné le goût, en tout cas, de l'Antiquité. Beaucoup d'histoires sur la mythologie. Et il m'a donné envie de lire Edgar Poe et Rabelais. Et je crois que c'est la meilleure chose que peut faire un père pour son fils, c'est lui donner le goût des livres. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a vraiment donné le goût des livres.
Et Isidore, votre grand-père, qui avait émigré de Pologne en 1900, lui aussi était un conteur ?
Alors, mon grand-père, c'est lui qui a fondé un peu la famille, qui a fait quitter la Pologne et installer la famille à Toulouse. Mon grand-père était la grande figure, en effet. C'est lui qui sentait ce qu'il fallait faire. Et notamment, durant la Deuxième Guerre mondiale, il a compris qu'il fallait partir en Espagne. Et après, il a compris qu'il fallait envoyer son fils aux États-Unis, donc mon père. Et mon père est rentré dans l'armée américaine et a fait le débarquement avec l'armée américaine. Tout ça a été organisé par mon grand-père.
Alors, Bernard Werber, vous avez donc grandi dans la ville rose, Toulouse, sous le regard de professeurs qui, au collège et au lycée, ne vous trouvaient pas du tout perturbateur. Vous étiez un bon élève, mais quand même... assez original, peut-être un peu trop original. Pour quelle raison ?
J'étais très solitaire, surtout. J'étais pas si bon élève que ça. J'étais même plutôt moyen. Mais
très bon en français.
Alors, pas toujours, pour être honnête. Non, mais ce qui a, en effet, à 8 ans, j'ai eu une nouvelle que j'ai écrite qui m'a tout d'un coup fait comprendre que j'avais la possibilité de faire rire les gens. Parce qu'au début, la première émotion que j'ai provoquée, c'est le rire. Et donc, c'est un professeur qui avait repéré ma rédaction en sujet libre. J'avais choisi comme sujet une puce qui escalade un être humain. Elle s'appelait « Souvenir d'une puce ». Et le professeur m'a dit « J'ai rarement autant ri en lisant une copie et je vous mets une bonne note, mais votre première phrase ne fonctionne pas. » Et cette première phrase, c'était « Je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. » Et il m'a dit « Vous comprendrez plus tard pourquoi ça ne marche pas. » Et voilà, en tout cas, j'ai associé le fait de raconter des histoires comme me fournissant une récompense, c'est-à-dire l'estime des autres. Et par la suite, chaque fois que ça n'allait pas, je me suis dit « Bon, je vais revenir... » à mon système de raconter des histoires.
En tout cas, le carburant de l'imaginaire était déjà là, en place, oui. N'est-ce pas ? Vous aviez une autre façon de regarder le monde ?
Je crois que j'avais un gros problème déjà, c'est ma mémoire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est récitation, tout ce qui est apprendre des systèmes par cœur ou les noms des fleuves ou le nom des batailles, j'étais pas très bon. Et je crois qu'en fait, c'est ma qualité est liée à mon défaut. N'ayant pas de mémoire, je vis dans des mondes que je réécris en permanence et dans lequel je me projette tout le temps dans le futur au lieu de répéter le passé.
Alors, après le bac, Bernard Werber, vous avez fait des études de journalisme à l'ESJ de Paris, mais il paraît que vous avez d'abord fait à Toulouse des études en criminologie. Dans quel but ?
J'avais démarré par le droit et le droit était tellement ennuyeux, précisément parce qu'il fallait apprendre par cœur les règles. D'ailleurs, j'ai rapidement compris qu'il fallait apprendre les règles pour ne pas les respecter. J'avais l'impression que c'est un professeur qui m'a dit ça. Il disait, le droit va vous apprendre à séduire et à tricher. Et ça m'a jailli dans l'esprit. C'est que tout ce qu'on est en train de m'apprendre, toutes ces lois, c'est pour séduire et tricher. Donc j'ai essayé de trouver un autre système. Ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est la criminologie. En criminologie, on nous apprenait à faire une enquête. On nous apprenait aussi à crocheter les portes. On nous apprenait comment faire des poisons, comment faire des fausses signatures, les grandes escroqueries. C'est-à-dire pour pouvoir nous protéger du mal.
Un terrain formidable pour un romancier.
Voilà, c'est un terrain formidable aussi pour devenir un espion, parce que il nous apprenait toutes les techniques d'espionnage qu'on voyait dans les livres, toutes les techniques d'enquête, comment on pouvait faire des autopsies. J'ai pratiqué des autopsies.
Aussi.
Voilà, et c'était passionnant. Le seul problème, c'est qu'avec un diplôme de criminologie, on ne débouche sur aucun métier. Ça donne des points pour être médecin légiste.
Mais si, on peut être auteur de polar.
Et voilà, on peut être auteur de polar.
En tout cas, vous êtes devenu journaliste scientifique. On vous présente toujours ainsi. Mais quelle est la part des sciences dans votre cursus? Vous avez plutôt une curiosité de scientifique, c'est ça?
Écoutez, moi, si j'ai fait le métier de journaliste, c'est parce que j'avais envie tous les jours d'apprendre des choses. Après, ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur le terrain. En tant que journaliste scientifique, je pouvais rentrer dans les laboratoires, je pouvais rencontrer les scientifiques fascinants que je rêvais de rencontrer, comme Henri Laborie, par exemple. J'étais fasciné par Henri Laborie, j'ai eu la chance de l'interviewer. Et Henri Laborie est l'inventeur, pour ceux qui l'ont oublié, des benzodiazépines, donc tout ce qui est tranquillisant. Et c'est lui qui, quelque part, à mon avis, a inventé un stabilisateur de la société. Oui. Sinon, on serait déjà tous fous. Donc, il me semblait intéressant d'aller voir comment le monde avançait à toute vitesse. Et c'est dans la science que le monde avançait le plus vite. Parce que je ne crois pas que dans le domaine de la culture ou dans le domaine de la philosophie ou de la politique, les choses avancent aussi vite qu'en science.
Europe 1.
Bernard Werber, pendant 7 ans, ce n'est pas rien, vous serez journaliste scientifique, pigiste au Nouvel Observateur, et vous arriverez même en finale du prix du meilleur jeune reporter. Mais la nature humaine est complexe, et votre enthousiasme agaçait à cette époque, donc vous n'aurez pas le prix, mais ça va vous aiguiller vers la grande aventure de votre vie, suivre en Afrique les immenses colonies de fourmis magnons, ce qui fera l'objet d'une trilogie sur les fourmis devenue phénomène d'édition planétaire. Alors, on retrouve tout de suite Bernard Werber, dont l'objet de fascination est désormais les chats.
Europe 1. Une heure de confidence en compagnie d'Isabelle Morizet et de son invité, c'est Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un entretien qui se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1.
Je reçois notre griot français Bernard Werber, conteur et auteur de romans d'anticipation qui fait paraître chez Albin Michel deux livres, Sa Majesté des chats et l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, écrit par un chat. Alors Bernard Werber, j'évoquais à l'instant cette finale du prix du meilleur jeune reporter que, théoriquement, selon tous les pronostics, vous deviez remporter en tant que pigiste scientifique au Nouvel Observateur. Bon, au dernier moment, ce ne fut pas le cas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez quitté le Nouvel Observateur assez fâché.
Pas du tout. Non, j'ai compris que ma place n'était pas en entreprise. Et je pense qu'ils ont bien fait de me mettre dehors, dans la mesure où je voulais tout le temps lancer de nouvelles idées et qu'ils n'étaient pas très... En tant que nouvel observateur, ils voulaient plutôt observer des choses anciennes. Et donc le système, en fait, c'est comme toute entreprise, quand elle est suffisamment grande, elle ne vise qu'à s'entretenir elle-même et surtout pas à bouger. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise qui sont dans la même situation. Je veux dire, c'est pas spécifique à l'Obs. Ouais. C'est dès le moment où vous mettez des chefs, des petits chefs, des sous-chefs et tout, tout le monde s'étouffe mutuellement. C'est comme des plantes qui s'empêchent de pousser. Donc j'avais envie de pousser bien, donc j'ai pris le large. Enfin, on m'a fait prendre le large et là, je me suis aperçu que je poussais mieux.
Donc, depuis, vous avez vendu 30 millions de livres. Vous êtes une star en Russie, comme en Corée du Sud. Vous n'avez jamais reçu le moindre prix de la part des professionnels de l'édition.
J'en souhaite
et
pas.
Professionnels, vraiment au sens large. Hein. Je ne parle même pas des prix littéraires fameux.
Il y en a un
que vous avez récolté?
Non, j'en ai eu trois. C'est trois prix de lecteur. Premier lecteur du...
Ah, c'est bien ce que je dis, voilà. Mais pas des professionnels de l'édition.
Ah,
des prix de lecteur.
Ah oui, j'ai que des prix de lecteurs. J'ai eu surtout le prix des lectrices de Elle qui m'a permis de toucher un public beaucoup plus large, qui a été le premier moment où tout d'un coup on s'est aperçu que la science-fiction pouvait plaire aux femmes. Et là, tout d'un coup, c'est un public plus féminin qui s'est ouvert avec le Jour des fourmis, mon deuxième roman.
Alors vous dites que le meilleur critique, en fait, c'est le temps.
Ben c'est le temps. Regardez tous ces auteurs qui sont lancés à la mode et qui ne tiennent pas sur le temps, tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'un système qui n'est pas adapté. Comment dire ? Il y a un moment, je me rappelle, ils avaient pris des textes de grands auteurs, notamment, je crois, François Sagan, il avait montré, juste en enlevant son nom, il s'est aperçu qu'aucun éditeur n'en voulait. C'est-à-dire que ce qu'il n'y a plus, par exemple, chez François Sagan, c'est le personnage. Donc il y a des auteurs qui fonctionnent sur leur personnage et sur leur capacité à agir dans les médias. Mais ça ne veut pas dire que leurs textes puissent résister au temps. Par contre, en effet, Jules Verne, ou pour
mais
moi...
Mais vous ne dites pas quand même que
les... des grandes références qui est rappelée...
Vous ne dites pas que les livres de Sagan ne résistent pas au temps, tout de même.
Je dis... qu'elle aurait beaucoup de difficultés à être éditée, puisque c'est le cas. Mais il n'y a pas que elle. Ils ont fait l'expérience sur plusieurs auteurs. Ils se sont aperçus que vu que c'est que des livres fonctionnant sur le style, et que le style étant une mode qui se démode, beaucoup d'auteurs qui ont été portés au nu à une époque ne seraient même pas imprimés à une autre époque. Donc c'est ça que j'appelle ne pas résister au temps. C'est-à-dire, c'est des auteurs qui participaient à des états d'esprit d'une époque. Mmh. Et il y a d'autres formes de littérature et je crois que la littérature gagnerait à rester diversifiée et qu'on respecte les lecteurs. Il y a différents lecteurs, il doit y avoir différentes littératures. On n'est pas obligé de leur dire, vous devez tous aimer que le Goncourt. Et si vous n'aimez pas le Goncourt, c'est que c'est vous qui êtes stupide. Voilà.
Bernard Werber, est-il vrai qu'un jour, un éditeur concurrent du vôtre vous a glissé à l'oreille? Vous savez, si vous venez chez nous, je vous garantis des articles élogieux dans la presse de référence. Hein, parce qu'on y a des gens qui font exactement ce qu'on leur dit de faire.
Vous me mettez dans une situation...
Mais je n'ai pas cité de nom.
D'accord. Non, oui, j'ai été contacté par des éditeurs qui m'ont proposé, en effet, d'avoir des prix littéraires comme si c'était une manière de me rétribuer. Et j'aurais dit, c'est pas grave, je pourrais vivre sans prix, sans article. Et j'écris pas pour ça. Et je suis conscient pour qui j'écris. J'écris pour les lecteurs et j'écris aussi pour que ça résiste au temps. Vous citez ça tout à l'heure. J'espère que dans 200 ans, j'espère que dans 50 ans, mes livres auront encore du sens et prendront encore de la valeur.
Alors, vous avez effectivement choisi un genre, Bernard Werber, l'anticipation aux frontières de la science-fiction, qui fascine plus les producteurs de cinéma que les éditeurs. Et pourtant, cette fenêtre sur le futur, qu'est la science-fiction, a permis d'envisager des choses absolument fascinantes bien avant l'heure. Déjà, on peut dire que dans 20 milieux sous les mers, Jules Verne abordait l'écologie. Et par exemple, exact. À la fin des années 1880, un romancier, Albert Robida, dont on parle assez peu, mais qui avait un imaginaire absolument fabuleux, en 1880, Robida décrivait un monde avec des missiles robotisés, des gaz asphyxiants, la télévision, les bébés éprouvettes, les buildings, le TGV, tout ça en 1880. Donc oui, l'imagination, on peut dire que c'est une vision juste accélérée du monde.
C'est une tradition française qui mérite d'être remise à l'honneur. Et il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les Américains qui ont le droit de penser aux technologies. C'est vraiment important, c'est bien que vous ayez rappelé cet auteur, mais si on ne développe pas des visionnaires, eh ben, nous n'aurons aucune vision. Si on ne lance pas des auteurs de science-fiction, si on ne met pas en valeur des auteurs de science-fiction, eh bien, on va rester juste à nous regarder le nombril et à vivre avec la nostalgie du passé. C'est ça qui est terrible.
Alors, Bernard Werber, qu'est-ce qui, dans votre dernier roman, Sa Majesté des Chats, paru chez Albin Michel, vous semble le plus susceptible de faire partie de notre quotidien en 2050?
Ben déjà... Je crois qu'il y aura de plus en plus de rats. Je pense qu'il y aura de plus en plus de problèmes écologiques et il va y avoir de plus en plus de dissensions au sein des humains. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec les gilets jaunes, ce qu'on voit avec le terrorisme, ce qu'on voit avec ces mouvements politiques nationalistes qui apparaissent un peu partout, je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger. Donc il faut déjà considérer que cette trajectoire-là fait partie d'un élément à prendre en ligne de compte pour comprendre comment nous devrons nous adapter.
L'un des facteurs déclenchants, c'est la démographie.
Voilà. Vous me poussez dans mes petits gris-gris. En effet, moi j'ai... Ça va vous paraître bizarre, mais... Donc j'avais des aquariums remplis de fourmis, mais de milliers de fourmis, et j'ai vu comment fonctionne une société large, et je me suis aperçu qu'à un moment, chez les fourmis, s'il n'y a pas de régulation des naissances, elles finissent par s'entretuer. Donc j'ai déduit ça d'une vision plus large. Notre planète est notre limite. Tant que nous n'avons pas colonisé de nouvelles planètes, nous sommes, nous aussi, dans un aquarium fermé, dans lequel nous sommes en train d'épuiser les matières premières. Donc, soit on lance un super programme de colonisation d'une autre planète, et dans ce cas, on pourra faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire essaimer,
Soit on régule les naissances.
Soit on régule les naissances. Réguler les naissances, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Et même les écologistes n'osent pas évoquer ce sujet qui est ultra tabou. Mais il est évident que quand on sera 10 milliards, il va être difficile d'épargner l'air, l'eau et nos réserves de pétrole et nos réserves de bois. Donc il y a un moment, c'est arithmétique. Mais il ne faut pas penser par pays, parce que chaque fois, on se retrouve à une opposition avec pays du Sud, pays du Nord, pays de l'Est, pays de l'Ouest. On s'en fout des pays, c'est toute l'espèce. Donc ça me semble juste du bon sens de base.
On retrouve tout de suite Bernard Werber.
Europe 15h41, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invité aujourd'hui, l'auteur de Sa Majesté des Chats et des Fourmis, Bernard Werber.
Bernard Werber, en 2008, vous avez participé à la création d'un étonnant collectif réunissant des auteurs de romans d'anticipation, de science-fiction, de polar, défendant de tous leurs neurones ce que vous avez baptisé la Ligue de l'Imaginaire. Alors dans cette Ligue, on trouve autour de vous, par exemple, Maxime Chattam, Bernard Minier, Agnès Abécassis, Franck Tillier et bien d'autres. À quoi ressemblent vos réunions? Que vous racontez-vous?
De quoi on parle?
Mais oui. D'abord, vous réunissez tous les combien?
On se réunit malheureusement pas assez souvent. On se réunit peut-être deux fois par an. Mais en plus, on n'arrive pas à avoir l'unanimité pour l'instant. D'ailleurs, ça devrait être un thème de la prochaine réunion, c'est essayer d'être plus régulier et peut-être faire des réunions plus fréquentes. Mais notre collectif, on s'est coopté entre nous, entre auteurs qui s'aimaient bien. Et on se dit, plus on sera nombreux à défendre la littérature et l'imaginaire, plus elle pourra exister en France. C'est une telle catastrophe, selon moi, d'avoir une seule littérature qui... C'est le mouton de Panurge, je pourrais prendre un Rabelais que j'adore. C'est-à-dire, on a vraiment une littérature mouton de Panurge. Il y en a un qui dit, tiens, il faut aimer cet auteur. Tout le monde aime cet auteur en même temps. Et après, on passe à un autre. Et l'auteur qui a été découvert, ben, il est abandonné et laissé à lui-même.
Mais alors concrètement, au cours de ces réunions...
C'est dommage pour les livres.
Que vous racontez-vous à la Ligue de l'Imaginaire? Par exemple, vous gardez secret, j'imagine, les thèmes et les idées de vos livres en cours d'écriture. Parce qu'il ne s'agit pas de partager vos banques de données, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui émerge de ces réunions?
Ben, on parle de la littérature en général, on parle de nos livres. On parle de nos projets. Moi, je crois, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je crois quand même que c'est bien de signaler aux lecteurs, en tout cas, qu'il y a des arrangements qui font que ce qu'on vous présente, en fait, ça correspond à des intérêts particuliers, que les éditeurs se mettent d'accord pour des projets.
Ouais, mais ça, on l'a compris parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Mais par exemple, vous.
Mais sur l'imaginaire, non, on lance pas, si c'est ça votre question, on lance pas des projets collectifs au sein de notre groupe. On fait juste que discuter chacun de nos projets particuliers.
Alors Bernard Werber, comme vous adorez l'expérimentation, bah vous vous êtes lancé il y a quelque temps dans une vie parallèle à votre vie de romancier. Vous êtes devenu un showman en proposant un spectacle classé objet scénique non identifié qui mêle conférence, expérience et presque hypnose. Et vous avez joué sur scène jusqu'en Russie dans des salles de 5000, 6000 spectateurs. D'abord, pourquoi soudain cette envie de communiquer autrement que par l'écriture ?
Alors ça, c'est dû à un ami qui s'appelle Patrick Beau, qui m'a invité une fois à un spectacle qui s'appelait La Veillée, dans lequel chacun à tour de rôle, on devait raconter une histoire extraordinaire. Et donc j'avais raconté une histoire extraordinaire qui m'était réellement arrivée alors que j'avais 14 ans. Et je me suis aperçu que ça fascinait les gens. Je me suis dit, mais c'est ça le sens de mon métier, c'est conteur. Et j'ai pris tellement de plaisir à faire ça, c'était au théâtre Tristan Bernard, devant une salle de 500 personnes, que je me suis dit, je vais faire pareil, mais je vais raconter plusieurs histoires qui me sont arrivées. Et c'est là que j'ai établi un premier spectacle qui s'appelait Histoire extraordinaire, expérience amusante.
Et en fait, c'est la première fois que vous constatiez en live la réaction de vos lecteurs potentiels qui soudain étaient des spectateurs.
Voilà, là je voyais les moments où ils étaient intéressés, les moments où ils riaient, les moments où ils étaient dans l'émotion. Et en tout cas, la première fois que je suis monté sur scène, je ne me suis pas aperçu qu'en effet, je suis un garçon un peu bavard en fait. J'avais fait 3h30 de spectacle, là où je devais en faire 1h30, juste parce que les enchaînements d'histoires venaient et il m'est arrivé tellement d'histoires extraordinaires réellement que j'avais envie de les transmettre. Donc après j'ai réduit à 2h30, puis à 2h, maintenant mon spectacle je fais 1h30. Par contre, je fais
beaucoup d'expériences. De tourner et à l'étranger, parce que j'ai appris que, par exemple, vous montez sur scène à Moscou devant 6000 personnes. Vous parlez à des expatriés français ou bien vous avez des interprètes sur scène à vos côtés?
J'ai des traducteurs, mais j'ai fait en effet le spectacle aussi en Corée. Mais ce qui est surtout intéressant maintenant, c'est que la partie expérience amusante a pris plus d'importance que la partie histoire extraordinaire. Et donc, je propose des méditations guidées qui vont amener les gens à retrouver des messages de leur inconscient, à retrouver leurs propres souvenirs d'enfance enfouis, puis à retrouver leur vie antérieure.
En fait, Bernard Werber, ce que vous appelez de la méditation guidée, c'est de l'hypnose. C'est ce que vous pratiquez sur scène?
En fait, moi j'appelle ça proposition-acceptation. Si je propose aux gens de fermer les yeux, ils les ferment ou ils ne les ferment pas. Si je leur propose de visualiser une scène agréable, ils le font ou ils ne le font pas. Après, si je leur propose de fermer les yeux, de visualiser une scène agréable et après de se promener dans cette scène et me décrire ce qui se passe, ils le font ou ils ne le font pas. Alors c'est la technique similaire en effet à celle de l'hypnose, mais on pourrait dire que c'est la suggestion ou de la visualisation. C'est pour ça que le mot hypnose, ça ramène tout de suite à Mesmer, du
mais
spectacle.
Exactement.
Voilà. Et je crois qu'il faut sortir la visualisation de ce tiroir-là. Vous savez, quand quelqu'un lit un roman qui a écrit « Il avait face à lui la plus belle femme du monde », n'importe quel lecteur va imaginer la plus belle femme du monde selon ses critères. Ou si je dis que c'était une bataille terrible dans laquelle il se passait des choses éprouvantes, chacun va créer sa propre bataille.
Donc convoquez l'imaginaire. En fait, des spectateurs, mais vous êtes un chef d'orchestre sur scène.
En tout cas, je propose aux gens de réveiller leur capacité à faire leur propre musique. Et à la fin du spectacle, je leur demande de me raconter ce qu'ils ont vu. Et chacun se lève, enfin, pour ceux sur lesquels ça a marché, en général, c'est à peu près 70% de la salle, se lève et raconte ce qu'il a vécu dans sa vie antérieure, s'il est arrivé à remonter à sa vie antérieure. Et puis les 30% qui n'ont rien vu, c'est pas grave, ça ne marche pas sur tout le monde. D'ailleurs, je considère que l'hypnose, ça ne marche que sur les gens qui ont envie que ça fonctionne.
Alors, vous êtes un adepte de l'hypnose pour l'avoir pratiqué.
Oui.
Et jusqu'où l'hypnose vous a entraîné, Bernard Werber?
Alors moi, je trouve que le voyage dans la vie antérieure, c'est le truc le plus spectaculaire, parce que d'abord, il m'a semblé, en tout cas, retrouver 5 de mes vies, dont certaines sont extrêmement cinématographiques, et j'avais tellement de détails que je ne vois pas comment ça peut être juste le fruit de mon imagination. Ce qui est intéressant, c'est de vivre cette expérience. Et c'est ce que je propose dans mes spectacles. Le prochain que je fais, d'ailleurs, va être le 23 janvier au Théâtre des Trois Baudets à 20h. Et en général, c'est au final, une fois que j'ai proposé plusieurs petites expériences, que la grande expérience finale, qui dure à peu près 15 minutes, est proposée, à savoir retourner dans une de ses vies antérieures et la revivre à fond, puis, pour ceux qui ont réussi, la raconter aux autres.
Europe 1.
Conteur, showman, conférencier, griot, teaser. Je reçois Bernard Werber. On le retrouve tout de suite.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dernière partie, et cet après-midi, Isabelle Morizet s'entretient avec l'écrivain Bernard Werber.
Bernard Werber, comme vous êtes un peu fou et ne faites jamais rien à moitié, eh bien pour fêter l'apparition de votre nouveau roman Sa Majesté des Chats, publié chez Albin Michel, vous avez organisé au Grand Rex, à Paris, une fête digne de celle qui existait dans l'Égypte ancienne, quand on vénérait la déesse à tête de chat Bastet, qui est le nom d'ailleurs de l'héroïne de votre livre. Alors, on a un petit peu évoqué au début de cette conversation cette fête, qui était vraiment l'une des plus surréalistes de l'Antiquité, puisque vous nous l'avez dit, Hérodote racontait que plusieurs centaines de milliers de personnes se réunissaient dans la région de Boubastis déguisées en chats pour rendre hommage justement à cet animal. Moi, je voudrais savoir, au Grand Rex, ça a donné quoi cette fête avec Bruno Salomon, Éric Antoine, Philippe Gueluc, bien sûr? Ça a donné quoi?
Alors, d'abord, ça a surpris, je crois, beaucoup de gens de la profession, parce que d'habitude, normalement, les écrivains ne se donnent pas en spectacle. Mais je crois que tout le monde s'attendait à ce qu'on se plante. Et l'élément important, c'était est-ce qu'on allait arriver ou pas à remplir le Grand Rex, parce que c'est quand même 2800 places. Et par chance, ou en tout cas, grâce à la fidélité de mes lecteurs, on a rempli le Grand Rex. Et,
parce que ça, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas?
Ah, donc je considère que c'est le moyen d'accéder directement à mes lecteurs sans passer par les médias. Donc ça me permet d'avoir une communication permanente avec tous les lecteurs et ça leur permet aussi d'avoir une communication permanente avec moi. Mais là, cet événement au Grand Rex, en effet, on l'a fait que par les réseaux sociaux et par les réseaux sociaux d'Éric Antoine et Bruno Salomon et aussi Gueluc.
Et tout le monde au Grand Rex était déguisé en chat?
Non. C'était, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des déguisements assez extraordinaires. Mais vous savez, c'était la première. À la limite, je dirais, on va s'apercevoir réellement du potentiel de cette fête des chats. Oui. Si on arrive à la reproduire, je crois qu'on va la reproduire l'année prochaine pour la sortie de mon prochain livre, qui va être aussi le 1er octobre. Et on va essayer de reproduire ça, c'est-à-dire de faire à nouveau le Grand Rex qui est pourtant un nom de chien, hein, mais on mais va faire le Grand Rex avec le spectacle des chats, dans lequel on va essayer de faire encore plus d'effets spectaculaires, et peut-être qu'on pourra faire, comment dire, un encouragement à des déguisements encore plus dingues que ceux qu'on avait cette année, parce que là, on n'a pas eu le temps de faire le grand concours des déguisements.
Bon, je note ça sur l'agenda pour octobre prochain.
Voilà, j'ai pas encore
la date
précise.
Il faut préciser que cette fête, elle était au bénéfice d'une association.
Oui, c'est une association qui s'occupe de, justement, de récupérer les chats abandonnés et de leur donner un lieu de vie et de leur permettre de trouver de nouveaux maîtres. Vous savez, la cause des chats n'est pas une cause gagnée. Il y a beaucoup de chats qui sont abandonnés, il y a beaucoup de chats qui sont tués.
Ouais.
Et je crois que vous-même, vous avez recueilli un chat abandonné et que vous en êtes plutôt contente. Et
c'est l'enfant de la maison.
Voilà. Mais je crois que quand on fait du bien aux chats, il y a cette superstition égyptienne de faire du bien aux chats, qu'on se fait du bien à soi-même. Je crois vraiment qu'on se fait du bien à soi-même parce que les chats nous veulent du bien. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, mon chat, quand je suis malade, il vient vers moi, il se met à ronronner à l'endroit où j'ai mal, donc je pense réellement que les chats nous veulent du bien. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une étude récente qui montre que les gens qui possèdent des chats vivent plus longtemps que les gens qui n'en possèdent pas. Une moyenne de 5 ans de plus.
Alors, parlons cinéma, cher Bernard Werber. Vous rêvez toujours que Tim Burton adapte l'un de vos livres ?
Je crois qu'il ne faut pas trop réclamer de la vie. Je n'ai plus aucune velléité au point de vue du cinéma. J'écris des livres qui sont le plus cinématographiques possible. Maintenant, on est en France, et en France, on n'aime pas trop non plus le cinéma fantastique et de science-fiction. Regardez, il n'y a pas beaucoup de cinéma fantastique et de science-fiction. Nous, c'est les comédies rigolotes et puis les drames sociaux. Et donc, il y a d'abord un changement de mentalité avant qu'il y ait un problème soit industriel ou économique, soit un problème technologique.
Alors, vous avez vous-même goûté au cinéma en réalisant en 2007 « Nos amis les terriens », produit par Claude Lelouch. Bon, l'accueil n'a pas été tout à fait celui attendu, espéré.
Deux salles dans Paris, donc, et 120 en province. Donc, même s'il y avait eu un accueil très fort, le film n'aurait pas pu vivre vraiment parce qu'il n'avait pas de stars. Et qu'en France, on est dans un star système. Donc, d'abord, on regarde les stars et après, on regarde le
scénario. Vous vous en doutiez, ça, en tournant ce film ?
Pas à ce point. Et puis, le film a eu sa revanche en VOD. D'ailleurs, je crois qu'on peut encore le trouver en VOD, ce qui veut dire que les gens qui voulaient le voir et qui n'ont pas pu le voir dans les salles de cinéma l'ont vu en le téléchargeant, et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai fait ce film pour qu'il y ait un maximum de gens qui le voient.
Vous continuez toujours de voir plus de films que vous ne plongez dans des livres, Bernard Werber.
Mais vous savez, Victor Hugo avait une phrase, il disait « Les vaches ne boivent pas de lait ». C'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on en lit beaucoup. Moi, je trouve qu'actuellement dans les séries, il y a une écriture, un travail sur les personnages qui est souvent bien plus fouillé que celui qu'on trouve dans certains romans. Donc j'essaie de voir là où c'est le meilleur, là où les constructions sont les plus audacieuses et là où il y a de l'innovation, surtout ça, c'est la base.
Pendant plus de 20 ans, chaque matin, de 8h30 à 12h30, vous avez écrit à la table d'un café et pas chez vous. Vous continuez avec cette manie curieuse ?
Je vais vous dire, j'ai 58 ans, j'ai démarré à 16 ans, donc ça fait 40 ans que j'écris tous les matins au café, c'est la première chose
mais
que je fais.
Mais pourquoi pas chez vous ? En fait, s'immerger dans les bruits de la vie vraie, vous trouvez que c'est un meilleur terreau que la solitude à la maison ?
Je vais vous avouer quelque chose, j'en profite de votre émission pour vous dire un truc que j'ai jamais dit, c'est que si je suis à la maison, après avoir écrit un chapitre, je suis tenté d'aller vers le réfrigérateur et de manger. Vous savez, quand vous avez une scène, ça vous met tellement dans un tel état d'émotion, vous avez envie de prendre un truc. Et le premier truc qui est à portée de la main, vous allez le prendre, a fortiori de la nourriture. Tandis que là, quand je suis au café, je me prends un thé vert, et le premier truc que je prends à portée de la main, c'est mon thé vert, et comme ça, je ne grossis pas. Voilà
il
le
est
secret.
Né déjà le prochain livre ?
Ah là oui, là je suis bien avancé, c'est sur la suite de Sa Majesté des Chats, donc c'est les aventures de Basse-Tête, cette fois-ci aux États-Unis. Et j'étais tout à l'heure, juste avant de venir dans l'émission, en plein dans une scène d'action spectaculaire. Vous savez, quand je fais une scène d'action spectaculaire, je ne sais pas pourquoi, ça me met dans un état d'excitation et de fatigue, comme si j'agissais réellement. Et je suis amusé.
Vous avez vécu émission tout ce que vous avez écrit.
Exactement. Mais c'est une transe. En fait, ça se rapproche beaucoup du travail du chaman. Vous savez, se mettre dans la peau d'un chat, essayer de voir le monde à travers la peau d'un chat, c'est la fonction même du chamanisme.
Oui.
Et après, quand j'écris, je ne vois pas le temps passer. Et je vis le film à fond. Et quand ça s'arrête, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis amusé.
Donc c'est pour ça que comme nous, quand on lit vos livres.
Même sur une île des arts, je continuerai à faire ça. Ça m'amuse énormément.
Alors, juste avant de nous quitter, Bernard Werber, il paraît que votre plus grande angoisse, c'est que les extraterrestres n'existent pas. Vous êtes donc un auteur de science-fiction pour oublier qu'on est seul dans l'univers, c'est ça ?
Ça serait un drame. S'il n'y avait pas d'extraterrestres, ça voudrait dire que si on fout en l'air cette planète, ben, il n'y aura plus rien. Donc voilà, ça, je trouve que c'est la plus grande idée philosophique, c'est de se dire, on est responsable de tout ce qui va se passer, donc faisons les bons choix.
À très vite, et merci Bernard Werber. Et je rappelle qu'on peut écouter ou réécouter en podcast cette émission. On se revoit bientôt, c'est promis Bernard Werber.
Merci et au revoir, avec plaisir Isabelle.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et Isabelle Morizet revient bien sûr le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 avec deux nouveaux invités, Olivier de Kersauzon et l'ex-cantatrice Nathalie Dessay. Europe 1.